Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir, auditeurs de Radio Django. Bienvenue à vous dans cette édition du grand direct du 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas à Pôle Sud pour ce grand direct, mais au théâtre de l'Arsenic dans le quartier de Sévelin. Ce déplacement, nous le faisons car une bande de jeunes fera de la radio tout le week-end depuis ici, dans une belle yourte installée devant le théâtre. Cette bande de jeunes, c'est Culture Radio. Nous les accueillerons en fin d'émission pour notre rubrique Cultiver Lausanne, et c'est d'ailleurs eux qui assurent l'agenda de la semaine, une présentation du programme de Vidi, et en invité, ils reçoivent le directeur du Festival Les Urbaines, Patrick Doram. Au menu également, dans la rubrique La Rose des Vents, Claudia reçoit un invité dont le parcours de migration nous a intéressés. Il a notamment été soutenu par le collectif Droit de Rester et viendra à 18h20 témoigner de sa situation. Mais pour commencer, c'est avec Fanny que nous recevrons dans quelques instants trois militantes du collectif Feminista. Ce collectif organisait la semaine passée à Lausanne une manifestation pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Nous nous interrogerons sur les causes qu'elles défendent dans deux collectifs, collectif Elle et collectif Feminista. Bienvenue donc à tous dans cette nouvelle édition du Grand Direct. À l'antenne, vous n'aurez probablement pas reconnu Fabien, puisque c'est moi, Nicolas, qui anime l'émission du soir. Alors attention, c'est pour moi une toute première, indulgence pour les bévues, mais néanmoins, bienvenue.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Bonsoir Fanny.
Bonsoir Nico.
Bonsoir Fanny.
Bonsoir Nico.
Bonsoir Fanny.
Bonsoir Nico.
Ah, te voilà. Merci d'être aujourd'hui avec nous dans Vivre à Lausanne. Ce n'est pas une série que nous ferons en décembre, mais c'est une manifestation qui nous a intéressés.
En effet, la semaine dernière, le mercredi 25 novembre, a eu lieu une manifestation. Il s'agissait de défiler en fanfare lors de la journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. À cette occasion, une sorte de collectif bruyant s'est monté et est parti à 19h de la place Chaudron. Plus d'une centaine de personnes ont participé à ce cortège qui se nommait Batucira.
Et oui, et pour en parler avec nous, je le disais en sommaire, nous sommes avec trois militantes de deux collectifs. Il s'agit de Anna, Manon et Carole. Bonsoir à vous.
Hello.
Hello, bonsoir. Alors, vos collectifs sont actifs sur différentes actions autour de la défense du droit des femmes, retraite, violence, conditions salariales et autres. Votre dernière action avait lieu la semaine passée pour la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes.
C'était donc bien la première fois que vous organisiez une manifestation de ce type. Comment s'est passée cette manifestation? Est-ce que le monde attendu était-il au rendez-vous?
L'organisation, c'était...
Alors, l'organisation du micro ne fonctionne pas trop bien, donc peut-être Anna, tu peux répondre.
Non plus.
Alors, on essaye avec le verre. On se demandait donc comment s'était passée cette
manif. L'organisation s'est vraiment très très bien passée. Effectivement, on a décidé d'être bruyante, puisque finalement les violences qui se produisent quotidiennement contre les femmes sont pratiquement inaperçues dans l'espace public. Donc on s'est dit qu'on allait pas seulement défiler avec des pancartes, mais qu'on avait envie d'être un peu plus chaotique. Et selon cette idée-là, on s'est inspiré des méthodes d'intervention de mouvements féministes un peu plus radicaux qu'on trouve en Amérique du Sud et qui s'appellent les Batucadas. Et c'est des femmes, enfin d'autres personnes, et des hommes également, qui tapent sur des gros tonneaux de façon pour occuper la rue.
Donc c'était une manifestation en musique.
Voilà, en fanfare, comme vous
en
l'avez.
En fanfare.
Et puis, on était assez contents parce que malgré les mauvaises conditions météo, on a eu à peu près 300 personnes. Donc, comme quoi, c'est un thème qui mobilise plus que ce qu'on pourrait l'imaginer.
Et il y avait des hommes à cette manifestation?
Oui.
Quelle proportion, à peu près? 2%, 20%,
non, 1%? C'est un peu difficile, mais je dirais qu'il y avait un quart d'hommes. Et c'est sur ce point, enfin c'est un point que vous soulevez qui est quand même assez important parce que on est pour un changement social et on n'est pas pour contre les hommes, et ça c'est quelque chose qui est assez important. Et on pense que si un changement social doit se faire, ça sera avec les hommes et en tout cas pas sans eux.
Pour rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet, je vais présenter quelques chiffres que vous-même avez notés sur votre manifeste, et ces quelques chiffres nous font peur. Donc en Europe, un tiers des femmes sont victimes de violences sexuelles ou physiques depuis l'âge de 15 ans, et presque la moitié des femmes subissent des violences psychologiques dans le couple, et toutes ont déjà vécu du harcèlement sexuel. En Suisse, toutes les deux semaines, une femme meurt suite à des violences sexistes, et une femme sur cinq subit des actes de violence physique ou sexuelle de la part de son partenaire au cours de sa vie. C'est effectivement des chiffres qui nous font peur. Est-ce que vous pourrez nous expliquer en quelques mots ce que vous définissez comme violence sexiste ?
Alors, en matière de violence sexiste, il y a différents types de violences qui sont présentes. On peut parler de harcèlement, on peut parler de la traite des femmes, on peut parler de mutilation génitale. Et les grandes, enfin, il y en a beaucoup d'autres. Hein, toutes les violences qui sont à l'égard des personnes qui homosexuelles, des personnes transsexuelles, transgenres. Pardon. Et une des grandes parties des violences que les femmes subissent aujourd'hui sont des violences qui ont lieu dans le couple, de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint.
Ce qui est plutôt, qui fait plutôt peur et qui est presque étonnant, on se l'imagine moins.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est souvent une violence qui est cachée, qui reste, on peut dire, dans le privé, qui reste dans le silence. Et l'idée de la manifestation, c'était aussi au niveau très symbolique de dire ce qui se passe dans le privé, c'est pas vrai que c'est privé, et les solutions, elles sont collectives. Et il faut vraiment une mobilisation collective, sociale, pour pouvoir lutter et puis éradiquer en fait ces violences.
Et d'ailleurs, est-ce que les lois par rapport à ce sujet, est-ce qu'elles évoluent ces dernières années ? Est-ce que les violences au sein du couple, elles sont reconnues ?
Oui, ça évolue. Par exemple, y a une des thématiques, c'est le viol conjugal. Mais il faut dire que c'est seulement à partir de 1992 qu'en Suisse, le viol conjugal est considéré comme un viol, finalement, que c'est condamné. Et c'est seulement, et ça je viens de l'apprendre, à partir de 2004 qu'il est poursuivi d'office. Donc avant ça, c'était à la femme de porter plainte, et puis on le sait que c'est toujours très difficile. Donc oui, ça avance, mais il reste encore des choses à faire.
Et du coup, dans ce contexte, quelles sont vos revendications principales ?
Oui. Une chose que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, en Suisse, on est beaucoup face à une égalité de droits, c'est-à-dire qu'au niveau de la constitution des lois, on a une égalité qui est plus ou moins atteinte, mais au niveau des faits, au niveau de ce qui se passe concrètement, on est encore loin de là. Mmh. Donc voilà. Ça.
Et du coup, vos revendications ? Pour aller vers le mieux ?
Nos revendications pour aller vers le mieux, c'est que les violences, elles s'arrêtent. Et pour ça, il faut que les violences contre les femmes soient reconnues comme des violences spécifiques, des violences de genre, qui sont faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Il faudrait une nouvelle enquête aussi au niveau national pour évaluer l'ampleur et puis savoir de quoi on parle, qui ça touche et puis quelles sont les conséquences directes. Il faudrait aussi au niveau des médias, là je tiens à vous remercier de nous avoir invités parce qu'on a une couverture médiatique assez faible, on était assez surprise.
Même après la manifestation.
Oui. Et donc, on vous remercie au fait de nous avoir invités ce soir, c'est très important. Et je pense que les médias ont aussi un rôle à jouer pour arrêter de parler en fait de crimes passionnels, de crimes de jalousie excessive, parce que c'est pas de la passion, c'est pas de l'amour, mais c'est vraiment de la violence conjugale, il faut vraiment nommer ça.
Voire de la domination.
Et de la domination, du contrôle, sur les femmes. Et aussi faire en fait de la violence faite aux femmes une priorité politique à différents niveaux. Et notamment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est pour toutes les femmes qui n'ont pas de statut légal en Suisse ou qui ont un permis de séjour par leur conjoint. Dans le fond, elles subissent la double peine parce que non seulement elles peuvent être victimes de violences, mais dans le cas de dénonciation. Dans le cas de dénonciation, elles risquent en fait l'expulsion. Donc,
D'accord. Ouais. Et si on entre un peu plus globalement sur les luttes féministes actuelles, quel est le sens aujourd'hui des luttes féministes par rapport, par exemple, aux années 70 ?
Je crois, comme disait ma collègue, c'est qu'on est dans un état de droit. En attendant, dans les faits, on n'est pas encore là. Pour citer ne serait-ce que juste l'exemple le plus parfait, c'est l'égalité salariale qui est loin d'être acquise. Après, on peut parler aussi d'égalité des chances. Et puis, c'est vrai que à l'embauche, c'est toujours discriminant d'être une femme encore. Et puis après, c'est peut-être, en effet, c'est des choses dans la société moins quantifiables, moins palpables. Mais c'est des choses que chaque femme ressent tous les jours, au niveau du harcèlement de rue, par exemple, du harcèlement au travail en général, et puis simplement d'une ambiance de vivre dans un monde quand même qui a été pensé avant tout par un homme hétéro cis. Blanc, voilà.
Exactement. Et aujourd'hui, quels sont vos moyens de lutte? Comment vous exprimez-vous? Comment se concrétisent ces luttes féministes?
Alors, il y a plein de moyens. Et puis, bien sûr, il n'y a pas qu'un collectif féministe, il y en a beaucoup. Donc, des moyens différents. C'est vrai qu'à Féminista, on organise des manifestations, on organise des événements. On a aussi, d'ailleurs je profite pour le dire, le Féministam, qui est donc ouvert à tout le monde, toute personne intéressée à venir discuter autour d'un verre tranquillement de féminisme sur des sujets libres. Et donc le bienvenu, c'est le prochain Féministam se passe demain à la Couronne d'Or à partir de 20h, donc bienvenue. C'est vrai qu'à Féminista, je trouve que notre arme, entre guillemets, on a quand même beaucoup d'humour. Et le but, c'est aussi de faire des choses un peu décalées pour trouver d'autres angles d'approche que juste un discours, peut-être juste universitaire, et puis posé avec argument, contre-argument, tout ça. Alors, bien sûr, ce discours fait partie aussi de Féminista. Mais c'est vrai qu'on cherche aussi à avoir des manifestations un peu rigolotes, un peu qui vont frapper un peu les gens plus, peut-être, que juste... Voilà.
Et on parlait plutôt qu'il y avait des hommes présents au cortège. Donc ça existe, des hommes féministes?
J'espère, ouais.
Mais dans une moindre proportion, forcément.
Merci. Non, mais alors, il y a des hommes féministes, ça je pense c'est sûr. Des hommes militants féministes, il y en a aussi. Après, pour moi, en tout cas, je pense pour féministes en général et pour beaucoup de femmes qui sont là, c'est clair que le féminisme ne se fait pas sans les hommes. C'est essentiel. Le féminisme, c'est pour les hommes et les femmes, pour avoir une société plus égalitaire et aussi sortir de ces idées de genre qui sont complètement carrés comme des petites boîtes dans lesquelles on met les gens. Puis ça,
et d'un genre, quand même le but. Et d'un genre au-dessus de l'autre, en fait. Voilà. Ça n'existe pas dans un idéal.
Bien, merci à vous trois d'être venus nous parler sur Radio Django de vos collectifs et de votre manifestation qui avait lieu mercredi passé. D'ailleurs, on s'y rend tout de suite un petit moment dans cette manifestation. On retrouve donc tous les détails du collectif Féminista sur leur site www.feminista.ch. On rappelle que demain aura lieu à la Couronne d'Or à 20h leur Féministam. Et puis bien sûr, cette interview est à retrouver en podcast d'ici demain sur notre site www.django.fm. We'll be right back. Vous écoutez Radio Django et dans quelques instants, ce sera la rubrique La Rose des Vents où nous accueillerons Kirtigan Shivakumar, un jeune Sri Lankais qui, grâce au soutien du collectif Droit de Rester, est aujourd'hui encore en Suisse. On part maintenant avec Sabu Martinez et sa chanson Delila sur Radio Django.
Radio Django, La Rose des Vents.
Bonsoir Claudia, ce soir tu nous invites à rencontrer en direct Kirtigan Shivakumar, un jeune Sri Lankais qui a réussi, grâce au soutien du collectif Droit de Rester, à s'intégrer en Suisse et à obtenir un permis de séjour.
Bonsoir Nico, oui exactement, Kirtigan qui est en train de se former à l'ERACOM, qui est l'école romande d'art et de communication à Lausanne. Nous racontera en direct son parcours de requérant d'asile qui a duré plus de 5 ans entre menace d'expulsion et d'aide d'urgence que c'est l'aide donnée aux requérants d'asile expulsés de Suisse.
Et puis donc sa rencontre avec le collectif lui a permis de trouver un soutien et d'être accompagné dans un long et difficile parcours d'intégration.
Oui, le collectif Droit de Rester l'a accompagné pendant presque 2 ans et a réussi à donner un happy end à l'histoire de Kirtigan. Il faut dire que ce groupe est actif depuis 2007 et il est composé par des migrantes et des personnes solidaires et issues de différents milieux comme enseignement, médecine, droit, etc.
Et c'est un groupe qui offre des permanences tous les lundis soirs et qui, avec son action, dénonce les conditions de vie dégradantes imposées aux migrantes.
Eh bien, parlons-en un peu avec Kertigan et voyons en quoi et comment le collectif a pu lui être utile.
Alors, on souhaite la bienvenue à Kertigan. Bonsoir. Alors, Kertigan, tu es d'origine sri lankaise et tu vis en Suisse depuis 6 ans. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu as amené à venir en Suisse à faire une demande d'asile?
Je fuis mon pays en 2009, c'est vraiment à la fin de la période de la guerre. Et simplement à ce moment, je me suis décidé de fuir le pays, ou sortir du pays, simplement sauver ma vie et sauver la vie de ma famille. Et donc, ce n'est pas moi qui décidais vraiment quel pays je vais aller, mais c'est la circonstance et la situation qui poussait jusqu'à venir en Suisse.
Donc, tu es arrivé en Suisse. Comment ça a été l'accueil ou le non-accueil en Suisse quand tu es arrivé en 2009?
L'accueil est bien, malgré un peu de démarches administratives un peu trop et on n'arrive pas à comprendre tout de suite. Mais par contre, ils ont bien expliqué qu'est-ce qu'il faut faire étape par étape. Et on a beaucoup d'amis migrants et réfugiés avec nous. Mais par contre, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment une très bonne connexion, très bon réseau avec le communauté d'accueil parce qu'on est vraiment assez fermé dans un abri ici. Et souvent, on restait dans un coin, sur une montagne, ou c'est vraiment très loin de ville. Donc, c'est pas facile de tout de suite faire connaissance avec le communauté d'accueil.
Tu étais où au début quand tu es arrivé en Suisse? Tu pars d'Abri PC, loin de Lausanne?
Oui, en fait, je suis venu, le premier centre administratif, c'est à Bâle. Après, ils ont tout de suite ils ont mis sur un centre d'accueil à Saint-Croix. Et donc, plus d'une année, j'ai habité en Saint-Croix, c'est un grand centre d'accueil. Mais assez difficile de sortir à ce moment et seulement 3 fois ou 4 fois je suis venu à Lausanne pendant une année.
Et pour ceux qui ne connaissent pas les démarches d'asile, c'est l'EVAM, l'établissement vaudois d'aide aux migrants qui t'a pris en charge, disons.
Oui, exactement. C'est un abri PC de l'EVAM.
Qu'est-ce qui t'ont offert, mis à disposition comme pendant ta démarche d'asile?
Moi j'ai un permis N. Permis N, ça veut dire pendant que procédure d'asile, ils vont donner un permis N. J'avais un permis N presque 3 ans et demi, donc c'est pas mal de temps que j'ai habité dans un abri PC. À ce moment, on a un peu de droit seulement pour suivre un peu de cours de français ou trouver un travail dans un domaine un peu très facile à trouver, par exemple dans un domaine de restauration ou un autre domaine. Mais c'est pas vraiment, si on a envie de faire quelque chose, si on a envie d'apprendre quelque chose, c'est pas facile avec permis N, parce que tout le monde qui considère permis N, c'est se dit que notre procédure d'asile, donc c'est pas stable, ou si on n'est pas sûr que cette personne qui va rester en Suisse ou pas.
Et pendant combien de temps tu as vécu dans cet moment d'être pas sûr, de pas savoir, d'attente?
Ça, c'est plus de 3 ans et 6 mois. Et après cette période, j'ai obtenu la décision négative. Ça veut dire que mon demande d'asile a été rejetée, donc je dois quitter le pays.
Et puis, c'est plus ou moins ces moments-là que tu es entré en contact avec le collectif Droit de Rester. Comment tu es venu à connaissance de ce collectif qui, effectivement, soutient les migrants et puis dénonce des conditions dégradantes de vie, comme vivre dans des abris PC ou dans l'instabilité totale?
J'ai souvent dit ça, quand j'étais roux, c'est vraiment quand j'étais roux, je connaissais le monde. Donc c'est une proverbe que j'aime bien de dire. Parce que pendant ces 3 ans et demi, je ne connais pas personne de Suisse et aussi le collectif qui fait le soutien. Et il y a un moment, j'ai obtenu la décision négative, donc je dois quitter mon appartement, je dois quitter mon travail. Et ça va, tout d'un coup, juste en une semaine, j'ai perdu tout. J'étais vraiment dans le roux, je ne sais pas quoi faire. Heureusement, une amie à moi s'appelle Aline Favret, c'est elle qui m'a amené dans une réunion de collectif Droit de Rester, parce qu'elle est un membre de collectif.
Et comment ça a été cette première réunion? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là que tu es arrivé à Droit de Rester?
J'ai rencontré le membre de collectif et j'ai juste expliqué ma situation. Écoutez, moi, dans 30 jours, je dois quitter mon pays, je ne sais pas quoi faire. Ils ont expliqué tout de suite, ok, c'est quoi l'étape, le prochain, et qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de rester ici, ou qu'est-ce que je dois faire, je me suis décidé de retourner dans mon pays volontairement. Simplement, ils ont expliqué ça, mm-hmm. et à l'époque, je cherche vraiment ça, et je vraiment cherche qu'est-ce que je peux faire à ce moment.
Parce que tu ne recevois pas des informations
oui, exactement.
Dans des, disons, organes plus officiels.
Oui, c'est ça. On ne reçoit pas aussi, à l'époque, c'est vraiment personne à côté de nous pour écouter au moins, mais pourquoi on n'est pas vraiment envie de retourner dans notre pays où, c'est quoi notre souffrance à ce moment plus de, après les 3 ans et demi, on était là et au moins écouter quelqu'un de notre témoignage, donc à ce moment c'est vraiment ça m'aide, quelqu'un qui est resté avec moi 1h30 et il est resté, et tout d'un coup dans la première réunion j'ai déjà découvert même ils ont dit écoutez ça c'est une démarche très normale et ça peut arriver tout le monde, mais j'ai dit non, c'est vraiment ça me choque et ça m'étonne et je comprends pas. Ils ont dit ok bon restez dans la réunion et tu comprends après la réunion. Et je restais pendant 1h30, il y a beaucoup dans la même situation, donc tout d'un coup je comprends, voilà, c'est pas seulement moi, mm-hmm. c'est pas seul, et il y a beaucoup.
Donc de l'écoute, tu t'es senti en groupe, en collectif, quel autre soutien t'as reçu du collectif, en soutien financier, juridique, matériel?
Évidemment, il y a beaucoup de soutien dans différentes manières. Par exemple, c'est eux qui m'ont aidé de faire un recours. Pourquoi je n'accepte pas de quitter le pays? C'est eux qui m'ont dit le minimum connaissance, le minimum droit. Par exemple, si on n'est pas vraiment, si on ne veut pas de retourner notre pays, on a le droit de refuser de faire la signature dans ce papier, même on ne connaisse pas. Tout le temps, ils l'ont posé le papier. Même, ils ne donnent pas le temps de lire aux 5 minutes pour comprendre qu'est-ce qu'il a écrit en français dans le mot administratif. Et la première fois qu'ils ont dit, non, c'est bien, tu peux expliquer ça, même tu as un droit de refuser ou tu peux appeler quelqu'un d'autre pour faire comprendre qu'est-ce qu'il a écrit. Donc, ce type d'aide, c'est vraiment, ça m'aide à ce moment, c'est très précieux pour nous.
Et puis comme on a dit au début, toi tu as eu un happy end, maintenant tu as un permis B, tu peux étudier, tu es à l'ERACOM, tu as des amis, tu as un appartement. Donc grâce, on peut dire que c'est grâce à Droit de Rester qu'aujourd'hui tu as un permis B.
Oui bien sûr, c'est un soutien de Droit de Rester qui m'a vraiment...
Sans le collectif, tu en serais où aujourd'hui?
pardon. Bon. C'est pas moi, j'ai envie de faire la même chose de côté de membre de Droit de Rester, parce que moi aussi je suis un membre de Droit de Rester, parce que simplement, il y a beaucoup de qui dans la même situation, mais quand même, ils ne savaient pas, il faut contacter à qui, quelqu'un peut expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à ces situations. Donc, le collectif Droit de Rester, les membres dans le collectif, ils connaissent bien la démarche parce qu'ils ont déjà une très, très bonne expérience avec les migrants. C'est eux qui suivent souvent fait un accompagnement avec eux pour toutes les démarches, même les VAM, services de la population. Donc, en part, ça peut aider les migrants qui connaissent et qui peuvent garder un peu de l'espoir ou courage. Une autre part, le personne suisse aussi peut faire connaissance avec les migrants, quelles conditions et quelles situations les migrants qui vivent dans ce moment. Donc, pour moi, c'est un lien, le Droit de Rester crée un lien entre la communauté d'accueil et les migrants.
Toi, tu es resté en lien et aujourd'hui, tu es engagé comme membre du collectif. Tu soutiens d'autres migrants qui ont vécu, qui sont en train de vivre la situation que tu as vécue.
Et qu'est-ce qu'on peut dire si des migrants nous écoutent, par exemple? Où est-ce qu'on peut venir? C'est quand la prochaine réunion de Droit de Rester?
C'est toujours à la maison de quartier sur la gare. Et chaque lundi, la réunion qui commence à 18h30. Ce n'est pas vraiment une réunion administrative. On va vraiment parler entre nous. Et c'est vraiment un endroit, les gens qui sont toujours prêts à écouter vos témoignages.
Ben merci, l'appel est lancé, je crois, pour le collectif Droit de Rester. Merci, Kirtigan. On rappelle que vous êtes un migrant sri-lankais, que vous êtes actuellement étudiant à l'ERACOM. Merci d'être venu nous parler ici à l'antenne et merci à toi, Claudia, d'avoir mené cet entretien.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants, ce sera Cultiver Lausanne.
Wait.
L'antenne de Radio Django, c'était Ebo Taylor et Uhuru Yanzu qui chantaient leur titre Love and Death.
Radio Django, culture.
Et oui, une spéciale aujourd'hui pour cultiver Lausanne, car c'est une équipe, une bande de jeunes, une équipe qui se nomme Culture Radio qui vient animer la rubrique. Ce projet Culture Radio, c'est 7 jeunes qui découvrent le monde de la radio et celui de théâtre. Et en préambule à leurs émissions de ce week-end, nous leur laissons le micro pour la rubrique Cultiver Lausanne. Et comme d'habitude, ça commence avec un agenda. Aujourd'hui, c'est celui de Dimitri. Salut Dimitri.
Salut Nico. C'est cela. Alors, pour l'heure, un petit retour sur un événement qui a commencé mi-novembre.
Et oui, on parle maintenant du festival Lausanne Lumière. Ce festival a débuté le 18 novembre et dure jusqu'à Nouvel An.
Tout à fait. J'espère que vous en avez déjà bien profité. Avec plusieurs installations qui ajoutent une touche lumineuse pour l'ouverture des fêtes de fin d'année, des sculptures et des projections sont à découvrir dans des lieux appréciés par les citadins. Citons notamment l'installation « L'effet papillon » qui décore la façade végétale des TL à la place de l'Europe, conçue et réalisée par les élèves des écoles lausannoises. Ou encore les dents de lion géants d'Olivia d'Abbeville, des magnifiques fleurs de lumière installées au parc de Montbenon. C'est un projet qui réunit un ensemble des auteurs de la ville. On peut d'ailleurs remercier la démarche.
Et oui, donc Lausanne Lumière, une bonne entrée en matière pour ce mois de décembre qui commence. À découvrir en ville jusqu'au 31 décembre. Plans et infos disponibles sur leur site internet Festival Lausanne Lumière avec S.ch.
Radio Django, 18-19h.
Parlons maintenant d'un événement culturel qui aura lieu ce week-end à Lausanne, Dimitri.
Dans la continuité, début décembre nous offrira son lot d'effervescence et de lieux réchauffés pour accueillir qui voudra compléter son agenda festif. Le rêve de réunir en 3 jours expo, galerie la journée, théâtre, installation, performance comique, danse en fin de journée et musique impulsive variée jusqu'à tard dans la nuit. Les lieux les plus populaires, ouverts à tous, pour des événements gratuits. À consommer sans modération en faisant le plein de nouveautés.
Mais c'est quoi alors ?
Alors, retenez bien son nom. C'est le festival Les Urbaines, le 4, 5, 6 décembre. C'est un plongeon assuré dans les arts contemporains. Pas de lézard. Il y aura de l'entrée, de l'apéritif, du complet, du léger, du consistant et assez de place pour tout le monde dans cette grande sphère artistique. Je vous assure, ce melting pot de créateurs sont venus, certains d'un autre continent et d'autres simplement de la porte d'à côté.
Mais de quoi parle-t-on ?
Et ils viennent pour offrir et transmettre des savoir-faire qui vous étonneront.
Mais on parle de quoi ?
Ces nourritures spirituelles sauront ravir vos papilles sensitives afin de passer un moment tout à fait exceptionnel.
Et oui, du 4 au 6 décembre, le festival Les Urbaines, c'est dans tous vos lieux de spectacle favoris à Lausanne. Pour le programme et les lieux détaillés, rendez-vous sur le site www.urbaines.ch.
Et ne manquez pas d'écouter Culture Radio, qui donneront des points de vue forts à propos sur les thèmes et les personnages accueillis au festival.
Et maintenant, c'est les bibliothèques de la ville qui organisent des événements dont on parle.
Pour plus tard, mais à noter quand même, car je sais que les rencontres gourmandes remportent franc succès. En effet, les bibliothèques de la ville de Lausanne à Chaudron accueillent l'éditrice Andonia Dimitrievic. Vous en avez déjà entendu parler, hein ? Eh bien, elle présentera pour la saison hivernale ses nouveaux livres publiés aux éditions L'Âge d'Homme. Le thème sera la gastronomie végane. Intéressant, elle révélera une recette de cookies, suivie d'une dégustation. N'oubliez pas votre dédicace.
Le 16 décembre 2015, à 17h30, plus d'infos sur le site hebdo.ch. Et c'est pas fini, cet agenda.
Ben non, non. Et juste avant le festival Les Urbaines, dans la foulée, ne perdez surtout pas contact avec le théâtre. Il y a le feu au lac.
Où ça ?
Eh bien, à Vidi.
Mais quand ?
Le 3 décembre à 19h, à la salle Charles Apotello. Berne ist überall. C'est le titre. Berne est partout. Attention, du respect. Remettre les points sur les i ne sera pas de trop.
Et pourquoi donc ?
Mais ce groupe de littéraires, poètes et musiciens présente sur scène un plaidoyer authentique, une représentation arc-en-ciel d'une Suisse particulière et symbolique. Nos accents seraient du nord au sud et de l'est à l'ouest, nos valeurs réunies, ils font briller la Suisse touch avec brio.
Comment ils la font briller ?
Ah ben, dans ce big band, quelques génies déploient leurs talents avec le succès qui va avec. Parmi eux, je peux citer Noël Reva, Guy Crneta, deux prix suisses de littérature 2015, ou l'auteur le plus lu de Suisse alémanique, Pedro Lenz, le prix Schiller, une histoire qui a été adaptée au cinéma entre autres. Donc Bern ist überall est donc un lingot doré qui ne dort pas dans les sous-sols d'une BNS.
Eh bien merci Dimitri pour ce super agenda. Je crois qu'on va pas trop s'embêter ces prochains jours à Lausanne.
Merci Radio Django, vive Culture Radio!
Radio Django, 18-19h.
Et oui, à l'antenne de Radio Django, ce soir en direct depuis le théâtre de l'Arsenic sous la yourte de Culture Radio, c'est l'heure de l'interview culturelle du soir. Il s'agit de Patrick Doram. Bienvenue. Salut Patrick. Et
salut.
Et pour te donner la réplique, j'ai l'honneur d'inviter un jeune de Culture Radio. Il s'agit de Simon. Salut Simon, salut.
Bonsoir tout le monde. Yes, alors bienvenue à cette interview qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Patrick Doram, le directeur des Urbaines. Et alors on va lui poser quelques petites questions pour un peu mieux situer à la fois son personnage et sa création, les Urbaines. Donc pour vous, c'est quoi les Urbaines au-delà de tout le côté administratif qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Alors bon, déjà, les Urbaines, ce n'est pas vraiment ma création, c'est une création collective depuis toujours, parce qu'au début c'était une association pendant 10 ans. Puis après j'ai repris la direction et j'ai continué à avoir un mode de programmation assez collectif, c'est-à-dire que j'invite chaque année 4 ou 5 personnes en plus de moi à faire la programmation. Donc le résultat est plutôt quelque chose d'assez mixte, assez une constellation de pratiques, de réseaux différents.
D'accord, et donc pour vous c'est aussi quelque chose de très, collectif, donc c'est finalement un assemblage de gens. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de famille qui change chaque année pour vous ?
Oui, c'est exactement ça.
D'accord,
le but justement c'est de la renouveler, de renouveler complètement les artistes chaque année, puisque les gens ne passent qu'aux Urbaines qu'une seule fois.
C'est la règle, ça c'est la règle d'or, seule fois aux Urbaines.
Découverte.
Donc justement on a cette optique-là de découverte vraiment les Urbaines. Donc pour vous c'est ça, c'est la découverte, nouveaux talents. et donc quelque part la mise en exergue de nouvelles personnes.
De nouvelles personnes et de nouveaux courants artistiques, puisque les artistes ont tendance, quand ils font des choses un peu nouvelles, un peu différentes, quand ils se trouvent un peu dans les marges des disciplines artistiques, à ne pas trouver tout de suite de lieu où présenter leurs travaux. Nous, on essaie de capter ces différentes tendances, ces nouvelles tendances, et de les présenter à un public le plus large possible, puisque le festival est gratuit. Ça marche plutôt bien. Une partie de ces artistes, ensuite, font des carrières. Enfin, historiquement, il y en a quand même pas mal qui ont même fait des très, très belles carrières, qui sont les principaux, les metteurs en scène qui exportent le plus en Suisse romande. Hein, Massimo Furlan, Gilles Jobin pour la danse, Yann Duvendac. Tous ces gens, ils ont débuté aux urbaines. Après, c'est... c'est pas forcément, on n'essaye pas forcément d'être les découvreurs de ceux qui vont réussir. On essaye plutôt de proposer une alternative, quelque chose d'assez sensible, qu'on imagine être utile aujourd'hui à la scène artistique.
D'accord. Puis justement, ces artistes que vous dénichez dans les coins de Suisse les plus reculés, justement, comment est-ce que vous faites pour les prendre, enfin, au-delà du côté, enfin, comment est-ce que vous faites pour les choisir ? Parce que c'est quand même, il y en a beaucoup.
Alors bon, on les choisit dans le monde entier. Hein. Donc cette année, il y a un Malien, il y a deux Indonésiens, il y a une Indienne, et des Russes, des Canadiens. Il y a aussi des Suisses. C'est très important de mélanger, c'est très important qu'il y ait une sorte de... Disons qu'il y ait un ancrage local, c'est-à-dire, nous, notre but, c'est de faire une émulsion dans laquelle il y a des artistes d'ici qui peuvent s'inscrire. Ça n'aurait pas de sens de faire un festival que je trouverais totalement consumériste, qui serait un festival d'importation de ce qu'on trouve bien, et voilà. Donc ça, pour moi, c'est très important. Comment est-ce qu'on les trouve ? C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut, chaque année, il y a 40 à 50 artistes ou compagnies qui viennent aux urbaines. Il faut les trouver. Alors, heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas seul. Moi, j'en trouve de 15 à 20 par année. C'est déjà pas mal. Et puis, c'est beaucoup de travail, beaucoup de prospection. Il faut suivre des réseaux, etc. Il faut aller là où tout le monde ne va pas. Ça, c'est important si on veut être différent. Il y a un phénomène qui fait que les festivals en Europe, ils se ressemblent de plus en plus. Hein. La mondialisation fait qu'il y a les mêmes artistes partout. Nous, on essaye justement d'avoir des gens différents. Alors, ça veut dire qu'on va prospecter de manière différente. On va aussi prospecter, des artistes qui nous donnent des noms d'autres artistes, etc. On garde des assez bonnes relations avec les gens qui sont déjà passés au festival. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien. C'est une méthode qui fonctionne plutôt bien, mais c'est une méthode qui fait toujours se croiser beaucoup de réseaux, quoi. Il faut être très, très poreux, très à l'écoute de gens qui, tout d'un coup, amènent quelque chose de complètement nouveau, qui, moi-même, m'étonne. Du coup, j'adore être étonné. Donc, dès que je vois quelque chose qui, moi aussi, me remet en question, j'aime ça. Et puis, j'essaye de comprendre.
Ok, d'accord. Parfait. Voilà. Mais alors, du coup, c'est vraiment quelque chose au feeling, presque, on pourrait dire. Donc, vous prenez quelque chose, puis vous... Vous regardez sur le moment qu'est-ce que ça donne, vous demandez qu'est-ce que ça peut se passer, et puis vous faites tout. Alors c'est magnifique. Puis justement, là, vous parliez avant de consommation, de consumérisme, etc. Ouais. Puis justement, pour vous, après, c'est un peu une grande question, mais qu'est-ce que c'est la place, justement, un peu de l'art maintenant ? On vit dans un monde qui est quand même vachement. Justement, vous avez dit le consumérisme, tout le côté image, médias, etc. Qu'est-ce que c'est la place ? Qu'est-ce qui reste comme place, finalement, à l'art dans ce monde ?
Bon, je pense que l'art est au centre de la société, moi. Je vois ça comme ça. Donc, pour moi, notre civilisation, elle tient uniquement parce qu'on a une sensibilité commune et qu'on arrive à comprendre la sensibilité de l'autre. Ça, c'est l'autre chose très importante. C'est pas seulement forger des valeurs communes, c'est aussi forger la capacité de comprendre les valeurs ou la sensibilité des autres. Et ça, l'art, c'est de quoi il s'agit, en fait. Je pense que aujourd'hui on est quand même, on peut dire qu'on est dans un monde occidental qui va mal, qui est rongé par un manque d'optimisme, par un catastrophisme énorme, un manque de valeurs. Enfin, on ne sait plus très bien où on est. Je pense que l'art a un rôle primordial à jouer. J'espère que... j'ai l'impression qu'on s'en rend compte maintenant, en ce moment, tout d'un coup. On se dit, il ne suffit pas juste de faire une société capitaliste qui fonctionne, ça ne suffit pas, en fait. S'il n'y a pas de valeur, s'il n'y a pas d'âme, si on ne travaille pas autre chose, tout compte fait, alors on a perdu.
Ah, c'est mort, ouais. Presque comme, ouais. Comme une sorte de corps vide, et puis là, une sorte d'essence qui vient là-dedans. Donc vous êtes presque une sorte de, je sais pas, c'est pas de chaman, mais de, vous unissez les gens, justement, la société que vous décrivez très vite. Non, moi, je trouve que c'est, enfin, personnellement, je suis très d'accord avec, vraiment d'accord avec ce que vous dites. Et du coup, justement, la place de l'art, et qu'est-ce que c'est votre coup de cœur dans ce milieu de l'art, en ce moment, votre, l'artiste qui vous prend par les tripes, c'est quoi le nom, enfin, si...
Ouais, alors bon, j'aime c'est une question qui revient souvent et que j'aime pas parce que je j'aime parler d'une constellation et du coup voilà, mais il y a un certain nombre d'artistes qui sont, cette année il y a beaucoup d'artistes qui sont très engagés aux urbaines. Bon, c'est ça vient comme ça. Mm-hmm. Donc on s'est pas dit ah cette année on va prendre beaucoup d'artistes qui parlent de quelque chose de d'engagé ou de quelque chose de personnel, disons un point de vue, mais ça vient comme ça et j'ai l'impression que, et c'est mon édito de cette année, j'essayais d'écrire sur le fait que j'ai l'impression que l'espèce de distance un peu ironique que l'art contemporain a pu avoir avec le monde pendant, disons, les années 90 et 2000 est vraiment finie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a énormément d'artistes qui parlent de sujets qui, en fait, leur sont proches ou sont des sujets à eux. Ils ne prennent pas tout d'un coup un sujet d'étude et ils vont travailler dessus. C'est vraiment des choses qui font partie de leur vie. On a Daniel Hellman qui parle du fait qu'il est prostitué. On a Malika Taneja, qui est une femme indienne, qui fait un monologue sur la condition de la femme en Inde. On a des gens en musique qui sont des gens qui mélangent à la globalité des choses tout à fait identitaires. On a Vacuum Cleaner, qui est un activiste politique anglais, qui raconte comment il a été, son groupe d'activistes a été infiltré par Scotland Yard. Voilà, donc on a des gens qui parlent de sujets, non seulement de sujets politiques, mais des sujets de politique qui sont à eux. Donc c'est pas tellement un retour aux politiques, je dirais que c'est un retour à l'honnêteté personnelle. C'est pas, ils racontent pas juste des histoires, parce que tout le monde raconte des histoires pour vous vendre un téléphone portable. On vous raconte une histoire pour créer une guerre dans le Moyen-Orient. On vous raconte une histoire. Alors qu'est-ce qui reste l'artiste là au milieu, au milieu de toutes ces histoires? Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il peut pas être encore juste une autre personne qui raconte juste une histoire. Ce qui va faire la validité probablement, c'est la valeur de son histoire et l'honnêteté de ce qu'il a raconté.
D'accord, mais justement, on peut reprendre vos propos. Si vous pensez que, justement, cette société de consommation qui est quand même très, qui rend égoïste, qui est très centré sur soi-même, est-ce que vous pensez que c'est un lien avec justement les artistes qui sont de plus en plus. Ils parlent d'eux-mêmes finalement.
Égocentrique.
Égocentrique.
Enfin, ouais. Je sais pas.
Ouais. Une forme d'égocentrisme, mais pas dans le côté, seulement moi. Dans le côté, je raconte quelque chose parce que ça me touche et là, je peux toucher les gens. Et justement, vous dites qu'on s'éloigne de la distance qu'il y avait à l'époque avec le côté prise de recul par rapport à l'art. Mais vous pensez que c'est la société qui a fait que maintenant l'art, qu'on arrive à une sorte de changement où les gens en ont ras le bol, même les artistes, et ils se mettent à parler d'eux parce qu'il y a un besoin, parce qu'on est coupé de nous, on est coupé de choses, avec, on nous demande de, on communique tout le temps, mais finalement, quand est-ce qu'on parle vraiment? Vous pensez qu'il y a un lien entre les deux?
Oui, je pense qu'il y a un lien entre les deux. C'est sûr. Bon, les artistes sont porteurs des mêmes questions que la société. Ils sont juste, ils ont juste une sensibilité qui fait qu'ils les portent sur la place publique. Ils portent le débat et souvent, ils portent plus de débat que de réponse à ce débat. Il pose des questions. L'exposition qui a à l'espace Arlo, Natural Instincts, parle bien de ça, l'instinct naturel par opposition à tout ce monde d'intelligence artificielle ou quoi, où tout d'un coup c'est urgent de retrouver un rapport direct avec son corps, avec son travail, un rapport physique avec les choses. Voilà.
Ok, alors merci beaucoup pour vos réponses. Donc on va continuer l'interview. Encore une dernière question, Patrick Durham. Est-ce que vous, la radio, parce que on est dans Culture Radio quand même, est-ce que la radio, on pourrait dire que c'est une forme d'art, très rapidement, simplement. Enfin, est-ce que vous pourriez la placer là-dedans?
Ouais. Bon, moi j'ai travaillé à la radio suisse romande pendant 13 ans. Donc, je n'y ai pas fait d'art, je pense. mais j'exclus pas qu'il puisse y avoir de l'art radiophonique. Il y en a eu. C'est sûr que là, on est tout, justement dans ce truc de consumérisme. On est dans les creative industries. Mm-hmm. Alors, les creative industries, il y a des zones floues, il y a des zones compliquées. Alors, la radio, c'est quand même assez clairement un média, la plupart du temps, 99,9%. Après, il y a des radios indépendantes qui, tout d'un coup, font de la création et cassent les barrières, etc. Mais sinon, on crée quelque chose quand même dans un carcan assez précis, mm-hmm. avec des buts assez précis. Et donc, je ne pense pas qu'on est dans la création personnelle artistique, on est dans autre chose, tout à fait créatif, que je respecte totalement. Quand on fait un film hollywoodien, est-ce qu'on est vraiment un artiste? Je ne sais pas. Quand on fait un disque mainstream, chaque fois qu'on se retrouve dans des espèces de carcans où tout compte fait, il y a un producteur qui vient complètement changer le scénario, il y a des script doctors, etc. Enfin, on est plus dans des espèces de choses, de storytelling, la même chose dont on parlait pour vendre un iPhone tout à l'heure. On est plutôt dans la création de quelque chose qui est destiné à plaire, où des équipes travaillent en se demandant qu'est-ce que le destinataire va aimer. J'ai évidemment tendance à avoir une définition quand même assez restreinte de l'art, en disant l'art c'est quand on arrive à mettre ça de côté et maîtriser un propos qui correspond à une vraie sensibilité personnelle. Sans se demander si à la fin elle va plaire ou pas.
Ok, d'accord. Alors merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que la radio est un art ou pas? Écoutez Culture Radio pour le découvrir. Et je redonne la parole à Nicolas. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup.
Et oui, et tout de suite, on reste avec Culture Radio et puis on rejoint. Merci Patrick. Oui, on rappelle que Culture Radio et surtout les urbaines, c'est du 4 au 6 décembre à l'Arsenic, au Bourg, au Romandie, au théâtre de Sèvlin 36, sous les Arches du Grand Pau et dans plein d'autres lieux. Et maintenant, on se rend à Vidi avec Justine. Allô Justine, tu m'entends? Allô Justine, allô? Oui, je t'entends. Alors, tu me sembles très très loin, mais donc toi, tu es à Vidi en ce moment. Alors, t'es pas là-bas pour faire de l'art, t'es là pour voir la présentation de plein de gens qui font de l'art, c'est juste?
Oui, exactement. Alors, je suis avec Elio, un autre journaliste de Culture Radio, et on est venu pour voir la présentation du programme du théâtre de Vidi pour la période de février jusqu'à juin 2016. Et là, il y a pas mal de monde. Enfin, il y avait pas mal de monde dans le hall d'entrée, si on veut, où il y a la cafétéria. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà tous rentrés pour aller voir le début de la présentation.
Bon, eh bien alors, filez, oui, il est 19h passé de quelques secondes, donc il est temps pour nous aussi de rendre l'antenne. Et puis on vous retrouve sous la yourte d'ici quelques jours aussi, peut-être, pour nous parler de ça. Allez, merci Justine, ciao, à bientôt.
Merci, ciao.
Alors voilà, on devrait terminer l'émission, mais on écoute un peu de Herbie Hancock. Alors je crois qu'on va pas en écouter beaucoup, même si ça serait super. Je crois qu'on va plutôt terminer cette émission maintenant. Et oui, le grand direct de Radio Django, c'est terminé pour ce soir. On est encore ici sous la yourte. Vous entendez, il y avait pas mal de monde pour les écouter en live. Merci à l'équipe de Culture Radio d'avoir été là et puis d'être encore un peu toujours là au téléphone, on vous entend. Allô, coupez le téléphone. À la production de cette émission, il y avait Cédric, à la technique, à la com au podcast Cindy et bien sûr toute l'équipe qui chaque semaine et tout au long de l'année produit cette émission et prépare les sujets. Un grand merci également au Théâtre de l'Arsenic pour nous avoir accueillis le temps de cette émission. Voilà, il est 19h02. À mardi prochain, 18h, pour le prochain grand direct de Radio Django.